France Inter.
Oui, bonjour. D'habitude, je ne réagis pas à chaud. J'attends plus tard dans la journée, le lendemain, voire la semaine suivante pour réagir à vos émissions ou à vos intervenants. Là, en l'occurrence, votre intervenante. Alors, si ça peut la rassurer, je pleure autant pour une orque ou quelque animal que ce soit à l'autre bout du monde qu'en ma présence. Par exemple, les agneaux ou les brebis qu'elle emmènera à l'abattoir, parce que je ne pense pas que tous ces moutons et tous leurs bébés meurent de vieillesse, en fait, ainsi que dans tout élevage, quel qu'il soit. Donc, je trouve un petit peu gonflé de sa part de dire « faut pleurer pour les animaux en notre présence plutôt que les animaux qui sont au bout du monde ». Quand, que ce soit mouton, vache ou quelque animal que ce soit, sa fin de vie est dans un abattoir, en fait.
Bonjour, la Terre au carré, c'est René de Foix. Merci beaucoup Camille pour cette belle chronique au sujet du petit orque de 2 ans sauvé par des amoureux du vivant. En plus de nous faire rêver, cette jolie histoire a permis à votre invitée, éleveuse de chèvres en l'occurrence, de tomber son masque. En un instant, la gentille gardienne de chèvres s'est transformée en extrémiste du spécisme. Les animaux, oui, mais seulement ceux qu'elle exploite. Hein. En plus, vos invités n'ont pas caché leur détestation de ces touristes qui envahissent leur outil de travail, qui entre nous ne leur appartient pas plus qu'aux randonneurs. À bientôt, mes amis.
Bonjour, c'est Emmanuel de Paris. J'appelle pour répondre à sa dame qui a dit qu'elle trouvait ça normal qu'on dépense 1 milliard pour que la Seine soit plus propre pour 2 épreuves des Jeux Olympiques. Moi, je trouve que c'est pas pour les Jeux Olympiques qu'on fait cet effort. C'est pour la propreté de la Seine, pour la vie qui s'y développe. Et personnellement, j'ai eu un pavillon en région parisienne. On m'a obligé à fixer les eaux pluviales, les mettre dans un puisard, les garder sur mon terrain, dans mon jardin, plutôt qu'elles aillent se déverser en cas d'orage dans la Seine avec beaucoup de saleté. Et je trouve ça normal d'avoir fait un petit effort pour que la Seine soit plus propre, même si ça nous coûte au début un peu d'argent. Merci.
Bonjour la Terre au carré, c'est Diane de la réserve de la Massane. Je vous appelle suite à la chronique de Camille lundi dernier sur un spectacle lumineux qui devait avoir lieu dans les Pyrénées-Orientales. On était intervenu pour expliquer que c'était en dehors de la réglementation. La préfecture n'a donc pas donné son autorisation à ce projet. L'entreprise a donc annulé l'événement, qui est un grand soulagement ici pour nous et puis pour toute la biodiversité, qui serait une vraie victoire aujourd'hui. Et ben c'est de pouvoir apprécier le ciel nocturne sans pollution lumineuse. Mais ça, il y a encore un petit peu de travail. En tout cas, merci à vous d'avoir relayé cette information. Et puis on lâche rien pour préserver le vivant. Bonne journée.
Voilà, très belle victoire en effet pour celles et ceux qui s'étaient émus de ce spectacle pas si lumineux que ça. 01 56 40 45 45, c'est le répondeur de la Terre au carré. Virus, bactéries ou champignons, les microbes, quels qu'ils soient, ignorent les frontières géographiques et sociales, mais aussi les frontières entre espèces humaines et animales. La pandémie de Covid-19 nous a rappelé qu'à tout moment, des micro-organismes peuvent menacer la santé des populations et bouleverser l'organisation de nos sociétés modernes. Cette menace potentielle, avec l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, est un sujet de préoccupation majeure, amplifié par la mondialisation, les échanges environnementaux et l'évolution des pratiques médicales et agricole. Comment faire face à cette réalité microbienne pour protéger efficacement la santé humaine à l'échelle de la planète? C'est l'objet d'un livre, Microbes sans frontières, qui paraît chez Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur, Philippe Sansonetti. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous, professeur émérite à l'Institut Pasteur et au Collège de France en microbiologie. Vous racontez donc dans cet ouvrage comment se défendre des microbes, mais aussi comment les préserver pour maintenir les équilibres de la planète. On va donc parler avec vous de menaces pandémiques, de vaccins, d'antibiotiques, mais aussi de la santé humaine à l'heure du réchauffement climatique. Et puis vous allez répondre bien sûr aux messages qui arrivent sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Philippe Sansonetti, on se retrouve dans un instant. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec des poules au programme. Comment expriment-elles physiquement leurs émotions? Eh bien, elles rougissent, entre autres.
Bon.
Étude très sérieuse d'INRAE.
Les émotions des poules tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec Alexandre Chenet à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
18 janvier 2020. Un mystérieux virus chinois fait son apparition dans les rubriques du journal télévisé de France 2.
À Wuhan, il a causé la mort de 2 personnes. 45 malades présentent des symptômes, alors comparés à ceux d'une pneumonie ou d'une grippe. À l'approche du Nouvel An chinois et de ses millions de déplacements, les autorités se veulent néanmoins rassurantes.
Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre.
Et on sait ce qui s'est passé après. Retour vers l'info en février 2021. Philippe Sansonetti, vous qui avez consacré votre carrière de chercheur à étudier, à déchiffrer les mécanismes complexes des maladies infectieuses. 4 ans après l'émergence justement du Covid-19, qu'est-ce que représente ce virus SARS-CoV-2 dans votre parcours de scientifique ?
Tout d'abord, il représente une ouverture parce que jusqu'à présent, j'avais beaucoup travaillé sur les bactéries et les virus n'avaient pas été véritablement ma cible de recherche, si vous voulez. Mais enfin, il est clair qu'un certain nombre de problèmes sont communs. Enfin, il a fallu se mettre un petit peu à la virologie de manière à pas dire de bêtises. Et ça a été, bien sûr, une espèce d'aspiration, sinon d'inspiration vers le sujet, dans la mesure où il devenait urgent, de pouvoir essayer dans une atmosphère qui était un petit peu hystérique, je dirais, à tous égards, surtout à partir de la fin du mois de février, début du mois de mars, d'essayer de mettre un tout petit peu d'ordre, de sagesse et de rationnel scientifique dans ce qui se disait. Alors donc, voilà.
Ce qui n'a pas été simple, parce que c'était aussi une science qui était en train de se faire. Hein, donc c'était compliqué de communiquer aussi en temps réel.
Oui, encore que la science, elle s'était déjà faite, au sens où on avait eu des expériences préalables douloureuses. Alors peut-être dans des circonstances un petit peu différentes. Le sida du début des années 80, mais les modes de transmission étaient différents, les malades initialement, le groupe était beaucoup plus ciblé, donc la prévention pouvait se faire un peu plus rapidement. Là, on était en présence de quelque chose qui se transmettait de façon très efficace par voie aérienne. On n'a pas d'ailleurs tout de suite très bien perçu le danger, alors qu'il était connu depuis la grippe espagnole, depuis le SRAS de 2003 et ainsi de suite. Bon, on l'a vu avec... On peut revenir sur la pantalonnade des masques, mais clairement, la perception du danger de la transmission aérienne n'était pas au rendez-vous.
Oui, vous parlez justement de l'indifférence et de la légèreté de la population face à la menace. Est-ce que il vous semble quand même qu'on a tiré les leçons de cette expérience collective avec le Covid ou pas ?
Il me semble, en tout cas j'espère, il serait un petit peu cruel de dire qu'on verra la prochaine fois si on en a véritablement tiré les leçons. Je pense quand même que globalement, nous, je dis pas les gens, comme on dit souvent, nous, globalement, on a compris ce qui s'était passé. Maintenant, effectivement, au jour le jour, quand on regarde périodes comme cet hiver, avec quand même une incidence de maladies respiratoires assez importante, l'absence de portage de masques, on voit encore que ce qui est peut-être rentré dans les esprits en période de crise pour une pandémie n'est pas encore pour, disons, l'endémie annuelle de la grippe ou des bronchiolites.
L'endémie, c'est-à-dire à l'inverse de la pandémie de l'aspect mondial, c'est des choses plus,
là,
plus localisées.
Avec, et on s'est habitué même au fait qu'il y ait une morbidité, une mortalité relativement importante liée à la grippe, par exemple, tous les ans, à la fois chez les personnes âgées, mais aussi chez les très jeunes. Mais c'est rentré quasiment une espèce de routine et c'est sorti du champ quelque part. Donc il va falloir qu'on apprenne à ce que ces mesures de prévention, elles sont pour le quotidien, elles sont pas simplement pour les moments de crise.
Alors cet ouvrage, c'est aussi une histoire finalement des maladies infectieuses, des virus, avec les pères fondateurs de votre discipline, la microbiologie. Finalement, ce qu'on constate, c'est que malgré le progrès, on n'a pas pour autant arrêté l'apparition de nouvelles maladies infectieuses, bien au contraire même.
Oui et non, si vous me permettez. Mais le thème de ce livre, c'est de dire qu'on a mis en place au XXe siècle, sur la base des découvertes de nos pères fondateurs, on ne va pas rentrer dans les détails, les vaccins, les antibiotiques,
l'épidémiologie, il y a tout l'historique dans le livre, en tout cas,
voilà, tout est dans le livre.
Tout y est.
On a quand même bâti un paradigme de santé publique miraculeux. Quand on regarde en particulier dans nos régions, dans les pays à haut niveau de vie, on a quand même éradiqué ou éliminé un certain nombre de maladies qui étaient la plaie des populations et qui pesaient très très lourd, pas uniquement en mortalité, en morbidité, mais aussi en poids psychologique. C'était un quotidien, en particulier avec la mortalité infantile. Donc ça a été traité, et c'est pour ça que je dis que peut-être la situation actuelle n'est pas... Alors dans les pays riches, avec un effort indiscutable à partir du milieu du XXe siècle pour faire partager les choses avec les pays à bas revenus, le programme élargi de vaccination, l'amélioration des soins primaires. Non, il y a eu un travail assez fantastique. Et j'essaye parfois de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié
vide. On voit qu'on n'est pas à l'abri de l'émergence encore de, mais voilà, de nouvelles pathologies quand même.
Dire que, bien sûr, il y a ce que, le thème de ce livre, c'est qu'on a eu ce modèle miraculeux, avec des limites bien entendu, y compris vers le sud, mais il est remis en tension au XXIe siècle par un certain nombre d'éléments, et ces tensions, j'essaye de finalement de les lister quelque part et de les expliquer, le vieillissement des populations, l'immunosuppression, l'antibiorésistance, la défiance aux vaccins, l'émergence bien sûr infectieuse qui est en lien étroit avec les perturbations écologiques et climatiques. Donc voilà, il y a de nouvelles menaces.
On va en parler avec vous au cours de cette émission. En tout cas, la pandémie de Covid-19 a été marquée par l'émergence de vaccins basés sur l'ARN messager, et ça, vous racontez à quel point c'est un tournant aussi dans l'histoire vaccinale ?
Ah oui, c'est sûrement un tournant vaccinal, je le vois même dans mon expérience personnelle. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à essayer de développer un vaccin contre la dysenterie bacillaire pour les enfants dans les pays pauvres. On en est à peu près, si on met le point de départ à un financement de l'Union européenne en 2010, à 14 ans quasiment de travail, et le vaccin est en essai clinique. Donc vous voyez un peu la différence, ouais, de timing.
Parce que là, c'était extrêmement rapide quand même. La mise au point du vaccin a été ultra rapide.
Alors ça a été très rapide, faut dire. Pour être très honnête, tout le monde nous bassine, entre guillemets, avec les vaccins en 100 jours, vaccins en 3 mois. Il faut dire qu'on savait déjà pour SARS-CoV-2 quel était l'antigène protecteur, c'est-à-dire la protéine de spicule. On le savait depuis le SRAS de 2003. Donc on a gagné du temps quand même dans cette affaire. Mm-hmm. Mais à partir de la connaissance de l'antigène, il est vrai que malgré tout, la vitesse à laquelle l'ARN messager permet de résoudre les questions est extraordinaire. Mm-hmm. Et pour l'instant, pour des maladies émergentes de même nature, c'est-à-dire virales, parce que pour des bactéries, ça risque d'être différent, il faut plusieurs antigènes, ça va être compliqué d'associer des ARN messagers de nature différente dans de mêmes capsules, enfin bon, mm-hmm, bref, je vous passe les détails techniques, mais ça va être le modèle de référence, et il va falloir beaucoup de travail, probablement, pour faire mieux.
Philippe Sansonetti, vous abordez, vous le disiez, la défiance vaccinale au moment du Covid. Pour en parler, écoutons cet extrait du documentaire d'Arte, Antivax, les marchands de doute. C'était diffusé le 7 mars dernier.
La vaccination est toujours un peu victime de son propre succès. C'est-à-dire que lorsque la vaccination fonctionne, les peurs liées aux maladies infectieuses diminuent. Et donc le scepticisme envers les vaccins augmente. C'est un problème qu'ont tous les vaccins. C'est pour ça que les effets secondaires des vaccins ont un impact beaucoup plus important que ceux d'autres médicaments.
La pandémie de Covid-19 a remis la défiance envers la vaccination sur le devant de la scène. Des centres de vaccination ont été pris pour cible dans l'Isère, l'Hérault ou les Pyrénées. Des tags, des menaces, des occupations. Dans la Drôme, à Nyons, les antivax ont été encore plus loin.
Donc cette porte ici a été forcée, les individus se sont introduits à l'intérieur et ont mis le feu. Ils sont repartis.
Voilà, documentaire d'Arte. Et vous rappelez aussi que les antivax, c'est pas une histoire qui naît avec le Covid, hein. C'est une vieille histoire précisément dans la vaccination.
Bah, les antivax sont nés avec les vaccins, en fait.
Dès le début, il y en avait.
Ah ben, les premières ligues antivaccinales sont apparues en Angleterre, au Royaume-Uni, au milieu du 19e siècle. Après la mise en place par ce qui a été appelé le Vaccine Act, c'est-à-dire du Parlement anglais, c'est-à-dire l'obligation vaccinale pour la variole, avec le vaccin de Jenner, pour tous les enfants de moins de 3 ans. Et dès cette époque, on a vu naître les ligues antivaccinales au Royaume-Uni. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas nées à Londres, c'est-à-dire elles ne sont pas nées au lieu du pouvoir, elles sont nées dans les villes du Nord, Manchester, Liverpool, des zones loin du pouvoir, avec une population prolétarisée par la révolution industrielle. Et on a l'impression quelque part que très vite, finalement, ce réflexe anti-vax, il est né à la fois sur une peur, probablement, de ce vaccin qui avait aussi des effets secondaires, faut être très honnête et très objectif, mais aussi un malaise social. Et j'ai l'impression, et en particulier, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé avec quelque chose qui nous a tous beaucoup choqués, qui est le refus vaccinal du personnel hospitalier dans certaines régions, d'avoir retrouvé cette finalement fusion du malaise social et de la peur du vaccin. Et je pense que finalement, l'antivaccination, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on le pense, surtout quand on est dans la peau, si je puis dire, de jeunes parents qui vont vacciner leur enfant qui est en pleine santé. Pourquoi ?
Mais alors, justement, si on parle des effets secondaires des vaccins, si on fait le bilan, au fond, de la littérature scientifique aujourd'hui sur la question, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
On peut en dire que, globalement, en particulier pour la vaccination des jeunes enfants, pour la vaccination pédiatrique, le bilan, il est extrêmement positif, au sens où, si on raisonne en risque-bénéfice. Bien sûr, quand les maladies infectieuses étaient présentes, on ne se posait même pas la question. Je me souviens encore une fois, je le raconte, des larmes de ma mère lorsqu'on m'a eu vacciné contre la poliomyélite. Les gens voyaient la poliomyélite, ils voyaient les désastres que ça causait. Et donc la vaccination, c'était vraiment un élément salvateur et il n'y avait pas de discussion, ou très peu. Là, finalement, on se retrouve dans une période actuelle où on ne voit plus, les parents ne voient plus les maladies infectieuses, donc ils hésitent et ça se comprend et il faut certainement leur expliquer. Mais voilà, la balance risque-bénéfice, elle a un petit peu changé. C'est ce qui a été dit dans l'émission d'Arte, à savoir que on voit plus les effets secondaires que le bénéfice, puisqu'on voit plus les maladies infectieuses. Donc ça, il faut l'expliquer, mais globalement, je veux dire, les effets secondaires de la vaccination pédiatrique, ils sont extrêmement rares. Parfois très inconfortable pour l'enfant quand ça se transforme en une fièvre très élevée.
Rapidement, et sur les effets secondaires.
Les effets secondaires chez les adultes, oui, on voit des syndromes de Guillain-Barré, on voit des complications, elles existent, il ne faut pas les nier. Ça rentre dans le grand équation du risque-bénéfice, ça reste encore suffisamment faible pour ne pas remettre en cause des vaccinations, c'est pareil pour le HPV par exemple, contre les papillomavirus. Il y a eu des campagnes antivaccinales menaçant de sclérose en plaques et de je ne sais quoi, sans aucune base scientifique. On voit très bien que ça se passe très bien, mais que malheureusement on a pris plusieurs années de retard dans la vaccination de nos adolescents.
Philippe Sansonetti, l'invité de la Terre au Carré pour ses microbes sans frontières.
Ça fait très très longtemps que j'y pense à comment ça m'est pire. Moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les hontis, c'est que Jacques te n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains. Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé, sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je bande, tout me parle pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rambat à CGMCC. Je tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale pétard entre mes dents. Bah ouais. Chante avec Ali. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des parents en fer. Avec un cri, je chante de l'enfer. Sur un gros fer. Bah ouais, chante avec Ali. C'est dangereux sa mère. Je vois que des pas en enfer. Avec un cri, chant de l'enfer. Sur un grand fer. Bah ouais. La crainte a focalisé. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ah. Chant avec Kali. Kali.
Je m'envoie les coups, c'est pas vrai.
Yamet avec Bécane sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Depuis 5 ans, la consommation d'antibiotiques en France ne cesse d'augmenter, plus 2,1% par an en moyenne. Plus on utilise les antibiotiques, plus les bactéries développent leur résistance. Les experts tirent la sonnette d'alarme.
Plus on prescrit d'antibiotiques, plus les populations sont concentrées, plus le risque de résistance augmente. Or, pour certaines catégories de microbes, maintenant, on observe des résistances qu'on n'observait absolument pas il y a 10 ans.
Voilà, ça c'était en 1998 avec Olivier Wong, généraliste, pour parler maintenant des antibiotiques, puisque c'est aussi un chapitre important de votre ouvrage « Microbes sans frontières » Philippe Sansonetti, qui paraît chez Odile Jacob. C'est vrai que vous revenez dans votre livre sur la saga des antibiotiques, qui illustre d'ailleurs une contradiction, puisque vous dites bien que notre espèce a la faculté d'inventer des outils extraordinaires pour sa survie, mais également, dans le même temps, sa capacité, au fond, à les dilapider.
Absolument. Et ça, c'est valable à la fois pour la médecine humaine et pour la médecine vétérinaire, d'ailleurs, qu'on peut mettre peut-être là dans le même panier, en l'occurrence. Mais c'est valable aussi en dehors pour la prescription d'antibiotiques non justifiés. Si vous me permettez, je reviendrai là-dessus. Mais effectivement, la prescription médicale elle-même reste trop importante. Ce qu'on entendait là a débouché sur quelque chose de formidable en 1999, qui a été les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ça a été vraiment une action extrêmement intelligente de santé publique. D'abord, le titre était formidable, accrocheur, et tout le monde pouvait le comprendre, mais ensuite, tout le monde a été mis dans le bain. Les médecins, les personnels infirmiers, tous les prescripteurs, tous les utilisateurs et la population ont été finalement consultés et de là est né. Et on a vu baisser très rapidement, par exemple chez le pneumocoque, qui devenait un problème de traitement dans les pneumopathies aiguës, en particulier des personnes âgées ou des enfants. On l'a vu pour les staphylocoques devenaient résistants à la méticilline au niveau de 60%, c'est-à-dire vous aviez 6 chances sur 10 d'avoir du mal à traiter une infection staphylococcique. Et on a vu tout ça baisser progressivement avec la maîtrise de la consommation et surtout, disons, la mise en place de contrôles et de justifications très serrées pour utiliser ces molécules qui sont des molécules miracles et qu'il faut préserver. Malheureusement, les choses reviennent naturellement, les mauvais réflexes reviennent, les prescriptions injustifiées, les angines qui sont pas streptocoques et qui sont virales et ainsi de suite, on connaît tout ça. C'est un élément extrêmement important et il faut que ça change parce que la France, par exemple, les Français consomment 4 fois plus d'antibiotiques que les Hollandais. Est-ce que quelqu'un peut me montrer si les Hollandais sont plus malades que les Français ? C'est vraiment un quelque chose qui est difficile et qui vaut dans la médecine vétérinaire tout autant.
Alan nous écrit sur franceinter.fr, loin de moi l'idée d'être anti-vaccin ou de m'associer aux idées de certains professeurs, mais à force de trop se protéger des microbes, est-ce qu'on ne risque pas d'affaiblir nos défenses naturelles et éventuellement de développer de nouvelles maladies ? Parce que c'est aussi valable, on l'a vu avec le Covid, le virus qui se transforme, qui mute. Donc, qu'est-ce que vous répondez, Philippe Sansonetti ?
La première chose, on peut commencer par la fin, c'est-à-dire par le virus qui mute. Le virus qui mute, on a vu très bien qu'avec la flexibilité, la versatilité, comme on dit maintenant, de la vaccination à ARN messager, on peut adapter les vaccins. On a vu apparaître avec le vaccin antipneumocoque, le premier vaccin antipneumocoque, il y avait 7 sérotypes, 7 valences différentes, immunologiquement différentes. Et puis ensuite, il y a eu 13, et puis ensuite, il y a eu 23. La science et l'industrie pharmaceutique s'adaptent à ces choses-là. Donc, je dirais, c'est pas un problème, et l'argument de l'échappement ne vaut pas dans des situations aussi dramatiques, par exemple, que des pandémies. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour votre auditrice qui a été soulevée, est une question scientifiquement intéressante. On a pensé depuis le début des années 2000 qu'effectivement la fin, entre guillemets, des maladies infectieuses faisait que notre système immunitaire n'avait plus cet entraînement que lui donnaient finalement les situations ancestrales où on était exposé depuis la naissance à des tas de maladies infectieuses. Il semble de plus en plus que ce soit pas tellement ça le problème et que ça puisse pas encore une fois rentrer en ligne de compte parce que au nom de ça, est-ce qu'on va laisser revenir la variole, la rougeole, la poliomyélite ?
Mais quand non, même, Philippe Sansonetti, vous écrivez dans votre livre, dans les paradoxes d'ailleurs de la médecine moderne, que à peu près toutes les pathologies ont été couvertes par la médecine et la chirurgie, mais au prix d'une fragilisation quand même des défenses immunitaires. résultats des patients. Donc ça rejoint un peu ce que dit cette auditrice, non ?
Oui et non. Si je peux finir sur la précédente histoire, c'est que ce qui semble être le plus important dans ces maladies postmodernes favorisées par le monde microbien, c'est l'appauvrissement de la diversité du monde microbien. Par le monde moderne, indiscutablement, mais probablement pas ou peu l'élimination des maladies infectieuses. Ça, c'est un point. Le problème, bien sûr, la médecine, elle est parfois invasive, parfois agressive. Il faut choisir entre guérir une tumeur qui va vous détruire en quelques mois ou en peu d'années, ou éventuellement, au nom de quoi ? Au nom du risque d'avoir une infection sur un terrain immunodéprimé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'encore une fois, et c'est la science qui rentre là en ligne de compte, les thérapeutiques, par exemple anticancéreuses, sont de plus en plus ciblées sur des voies de signalisation très précises impliquées dans la cancérogénèse, et ça n'est plus ou moins, et ce le sera de moins en moins, ces thérapeutiques polychimiothérapie très agressives qui effectivement mettent le système immunitaire à genoux, en tout cas pour la durée de la période thérapeutique. Donc voilà, moi c'est là, comme pour les variants du virus, tout ça, c'est la science qui le résout au fur et à mesure. C'est pas donc un bon argument, je pense, de revenir en arrière par rapport à tout ça.
En tout cas, dans cette histoire de la médecine, vous racontez que l'âge d'or des antibiotiques, c'est 50 années, en gros, entre 1935 et 1985, pendant lesquelles on a imaginé 150 molécules innovantes qui appartenaient à 15 familles chimiques. Entre 90 et 2010, deux nouvelles familles seulement ont été créées. Et depuis donc 2010, rien de solide, c'est carrément la panne.
Oui, c'est le terme qui est utilisé, c'est la panne des antibiotiques. Et Dieu sait, si on regarde l'antibiorésistance, en dehors de toutes les précautions qu'on peut prendre, il faut absolument trouver de nouvelles molécules, des alternatives. Alors, de temps en temps, on se demande si on n'a pas trouvé les principales, ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les low-hanging fruits. Probablement pas, il faut simplement grimper plus haut dans l'arbre pour trouver des fruits. C'est plus compliqué, c'est plus lourd, ça coûte plus cher, et c'est là qu'est le sujet.
C'est ça, trouver des labos qui investissent...
Le taux d'attrition dans la découverte, on trouve des molécules
Qu'est-ce
nouvelles.
Qu'est-ce que c'est l'attrition ?
Je vais vous dire. On trouve des molécules nouvelles assez régulièrement en réexplorant beaucoup plus l'environnement, parce que souvent les antibiotiques, ils sont nés de production d'antibiotiques naturellement par des bactéries ou par les actinomycètes en particulier. Mais donc on en trouve, mais une fois qu'on a trouvé une molécule active dans une boîte de pétri, dans un tube à essai au laboratoire, ça ne veut pas dire qu'on a un nouvel antibiotique, parce qu'il y a tout un tas de problématiques, de stabilité, de biodisponibilité dans l'organisme, et le taux d'attrition, c'est au fond, vous commencez avec 100 molécules et vous finissez avec 3 qui peuvent éventuellement aller sur le marché.
Donc il faut investir, il faut un retour sur investissement quand on a un labo pharmaceutique.
Voilà, le taux d'attrition est faible, et en plus, la consommation d'antibiotiques ne représente rien en regard de la consommation, par exemple, de ce que serait un médicament qui traite la maladie d'Alzheimer, qu'il faudrait prendre tous les jours pendant toute la durée de votre existence. Donc on est dans une espèce de complexité qu'il faut véritablement réfléchir collectivement.
On va parler du risque pandémique avec vous dans un instant, et puis évidemment de la santé humaine à l'heure du réchauffement climatique. Microbes sans frontières, Philippe Sansonetti dans la Terre au Carré.
France Inter, la Terre au Carré.
Pardon. 14h32, Camille Cronier.
Et par ici, les cocottes. Oui, je vous parle poule aujourd'hui.
Ben oui.
Avec une étude parue il y a quelques jours dont l'éthologue de l'INRAE, Aline Bertin, est co-autrice. Étude sur la façon dont les poules expriment physiquement leurs émotions, parce que oui, elles en ont aussi.
La base du projet, c'est de voir est-ce que chez la poule, on peut voir des choses bouger, changer, que l'on peut quantifier sur leur face. Maintenant qu'on sait que tous les vertébrés ont des structures neuroanatomiques, physiologiques, qui leur permettent de ressentir des expériences émotionnelles, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. C'est notre responsabilité, nous, de trouver des marqueurs d'émotion pour qu'on essaie de faire au mieux pour les élever, en fait, pour adapter leur environnement, par exemple.
Et les chercheuses ont trouvé ces marqueurs d'émotion. Devinez quoi ? Les poules rougissent. De quoi faire se retourner Darwin dans sa tombe ? Lui qui considérait, je cite, que le fait de rougir est la plus particulière et la plus humaine de toutes les expressions.
Ça veut dire que potentiellement, d'un point de vue évolutif, on partage peut-être plus que ce qu'on croyait avec des oiseaux.
Alors, dans les détails, ça donne quoi ces poules qui rougissent? Il a fallu passer 3 mois, 6 heures par jour assises sans bouger au milieu des poules, puis trier des milliers d'images filmées, puis extraire, grâce à des logiciels spéciaux, le taux de rouge dans la peau qui se situe chez les poules autour des yeux, autour des oreilles, sur la crête et les barbillons sous le bec. Le tout dans 3 situations différentes.
On a provoqué une situation négative pour les oiseaux. Donc, le test consistait à les attraper une par une, doucement, et à la maintenir entre les mains. Et ça, en laboratoire, ça a été déjà prouvé scientifiquement qu'il y a des réactions physiologiques. L'oiseau va sécréter des hormones de stress qui sont la corticostérone, avoir le cœur qui accélère, la respiration aussi. Donc ça, on sait que ça engendre du stress chez un oiseau. Donc, on a provoqué ça pour avoir ce qu'on appelle une émotion négative de forte intensité qui s'apparente à de la peur, en fait. On est allé aussi chercher du côté des émotions positives d'intensité assez forte. Par exemple, c'était en proposant aux poules d'avoir accès individuellement à des vers de farine. Les vers de farine, c'est quelque chose qu'elles adorent. Et puis, les émotions positives, c'est aussi les états qu'on appelle de calme, de contentement. Et chez l'oiseau, on sait qu'un oiseau qui va être calme, il va par exemple se mettre à se toiletter.
Alors, résultat pour 3 races de poules domestiques dans ces 3 situations distinctes. Quand elles sont stress, elles deviennent très très rouges. Quand elles sont super contentes, là, les vers de farine, très rouges aussi, mais un petit ton en dessous. Et quand elles sont cool, rosé clair, voire jaunâtre.
J'avais jamais vu.
Alors là, c'est la voix de Manuela Leduc, éleveuse de poules d'ornement et de races anciennes qu'elle vend pour que les particuliers en mettent chez eux, hein, pour les œufs, les déchets, etc. C'est dans sa ferme à Cléré-les-Pins, en Indre-et-Loire, que les scientifiques ont mené leur étude.
Je suis absolument pas surprise que les poulettes aient des émotions. Maintenant que je puisse aider à prouver ces émotions, je trouve ça génial. Et de pouvoir arriver à sensibiliser mes clients à ça, leur montrer les endroits où elles peuvent rougir et que dans la foulée, les clients me rappellent en me disant « Oh, on l'a vu piquer un phare, on vous remercie, c'est génial !» Moi, je trouve que j'ai rempli ma mission, quoi.
Parce que derrière tout ça, il y a aussi l'image de la poule qui n'est pas qu'une machine à pondre des œufs ou à faire rôtir.
Ouais, un peu de considération pour les poules. On s'est tellement intéressé à la productivité des animaux en général, qu'aujourd'hui, c'est peut-être même ça par ça qu'on aurait dû commencer, mais forcément les impératifs n'étaient pas les mêmes, mais qu'aujourd'hui on prenne enfin du temps pour étudier le bien-être animal d'un animal entre guillemets réputé tout ce qu'on veut, enfin un animal de basse-cour, donc un animal de rente, je trouve ça génial.
Et la chercheuse Aline Bertin est sur la même ligne.
Il y en a qui disent, mais on s'en fout qu'elles aient des émotions, je les passe au four. Enfin, ce sont des animaux qui nourrissent la planète entière et je pense qu'on devrait porter un regard très respectueux pour service rendu à l'humanité.
Voilà, des animaux sensibles, eux aussi, et qui l'expriment donc à leur façon. Il reste à savoir désormais si ce rougissement est dû, comme nous, au sang qui monte aux joues ou à la crête. Donc, le mécanisme reste à être décrit, et puis à explorer aussi d'autres marques d'expression, comme les plumes qui se dressent, parfois façon un peu punk. Bref, les poulettes n'ont pas fini de livrer leurs secrets, et nous, de nous y intéresser. Donc.
Et grâce à vous, Camille Cronier, merci beaucoup pour cette chronique.
Philippe Sansonetti, les poules, évidemment, avec beaucoup d'autres animaux, la grippe aviaire, on en parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières semaines, avec aussi des possibilités de transmission des animaux aux humains. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
J'ai à dire mon inquiétude, et puis une fois de plus, mon confiance dans le fait que les choses pourront être prises en charge. Ce qui s'est passé depuis 30 ans maintenant, c'est que, au fond, le virus de la grippe aviaire, qui est hébergé par les oiseaux sauvages, par les oies sauvages en particulier, mais de plus en plus par d'autres animaux migrateurs, flirte avec ce qu'on appelle le saut d'espèce, c'est-à-dire flirte avec des animaux et en particulier avec les mammifères. Et éventuellement avec l'homme. Et tout ça n'était pas arrivé jusqu'à ces quelques dernières années. Et là, on voit naturellement, avec l'explosion de cet épisode aussi, c'est-à-dire de la présence de ce virus, en particulier H5N1, chez les animaux, les oiseaux sauvages, on voit de plus en plus d'animaux, y compris des animaux domestiques, contaminés. Alors on a vu bien entendu les canards, on a vu les poulets, mais ça restait du domaine aviaire. Mais on voit maintenant des mammifères, en particulier des mustélidés comme les visons, être contaminé, et là on se rapproche assez dangereusement de l'espèce humaine, et on commence à voir effectivement, du fait de cette plus grande facilité de contact avec certains animaux domestiques ou d'animaux d'élevage où les hommes sont très proches, on voit arriver ce virus H5N1 chez l'homme. Donc, si vous voulez, les différentes étapes ou les différentes nécessités du cahier des charges sont en train de s'effectuer de façon naturelle.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'éventuelle prochaine pandémie pourrait venir de la grippe aviaire ?
Alors, on peut le dire, on le dit depuis le début la fin des années 90. Hein, c'était la grande alerte de l'OMS depuis l'épidémie de grippe aviaire sur le marché de Hong Kong en 97, avec SARS-CoV-2, justement. Et puis, comme par hasard, ça a été le SRAS avec le SARS-CoV, et puis maintenant SARS-CoV-2. La grippe H1N1, par exemple, était une grippe porcine, c'était pas vraiment la grippe aviaire. On a vu qu'elle était pas bien méchante avec le recul, mais voilà, ça peut arriver. La grande étape qui manque dans ce saut d'espèce, c'est la transmissibilité. C'est-à-dire que l'homme peut être infecté, on a vu que...
Ça a déjà été le cas, ouais.
Oui, mais ce sont des infections qui sont des infections directes par un animal contaminé, c'est-à-dire des enfants qui vont jouer avec éventuellement un cadavre d'oiseau mort de la grippe aviaire et qui vont recevoir une dose très très importante. Mais l'important, c'est que cette personne, et qui va faire généralement une forme très grave jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a 50% de mortalité, c'est ça qui fait peur, et c'est ça qui fait peur à l'OMS en particulier. Mais le problème, la dernière étape qui manque, c'est que cette personne infectée puisse transmettre à d'autres personnes et ainsi de suite. Et là, la transmissibilité du virus, elle n'est pas garantie parce que le virus H5N1, pour l'instant, chez l'homme, il se développe très bas dans les poumons et pas dans les voies aériennes supérieures.
Donc c'est
pas
du tout SARS-CoV-2. C'est une façon de nous protéger, entre
guillemets. Quelque part, on est protégé parce que les gens font des formes graves, donc soit ils meurent rapidement, soit ils sont hospitalisés très vite et donc isolés. Mais en plus, le virus lui-même n'a pas cette transmissibilité massive qu'on a observée avec SARS-CoV-2, y compris avec des formes asymptomatiques. Ça n'existe pas avec la grippe aviaire humaine telle qu'on la voit actuellement, c'est-à-dire pas une grippe pandémique, ça ne l'est pas.
On revient sur les pandémies et sur la santé humaine dans le cadre du réchauffement climatique avec vous, Philippe Sansonetti.
Any other day, any other time, I'd be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan, now I know that I should go. Looking for some reasons, tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night home. I just need one. Nothing wrong with this. Hard to pretend it's not what I want. Way too close to read my mind.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby. But you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching. But I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
I'm liking the way that you talk to me now. You know what you're doing, don't look at my eyes. Times that we've done what we did when I put it on ya, yeah, when I put it on ya. Yeah. Looking for some reasons, tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. I just need one reason. I know there's nothing wrong with this. Hard to pretend it's not what I want. I want you to read my mind.
I know you got your reasons, yeah. I know the. Still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling, and I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
In my feelings, I'm feeling my sorrow. I want you today, I want you tomorrow. I want you to stay, I'm not gonna borrow. I steal you forever, I take you Morocco. Me and you together, you're driving me loco. I wanna be with you, I don't wanna be solo. J-Hus, aka Eli Zolo. When you call me, I'll be there coming pronto. But I've kept it G, I never spent a cobble. Make a splash and a dash, you know that's the motto. She's driving me, I'm inside her motto. Your usna feels like I just won the lotto. Touching me, she feeling my muscle. I spend time with you, I'm posing my hustle. Pour something in my cup, me and you are a couple. Bad man, but sometimes I wanna cuddle.
I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, girl. You know you're very well seasoned. I know you got your reasons, yeah. I know the meaning. I know you're still healing, baby, but you're still appealing. Hope you don't think I'm reaching, but I got feelings to the ceiling. And I'm still in my feelings, baby. You know you're very well seasoned.
Feelings, c'était Georgia Smith sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Le 18 avril dernier, l'OMS a partagé son énorme inquiétude au sujet de la grippe H5N1. Au même moment, 187 chercheurs internationaux ont estimé que la prochaine pandémie serait causée par un virus de la grippe. Il faut dire que depuis quelques temps, le virus H5N1 se disperse aux quatre coins de la planète. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est que la grippe aviaire touche de plus en plus les mammifères.
Ces derniers mois, plus d'une vingtaine d'élevages de vaches dans 8 états américains différents ont été contaminés.
Un humain a même été infecté. Presque logiquement, du lait de vache contaminé a été découvert aux États-Unis. H5N1 est différent de notre grippe hivernale classique, mais le fait qu'il arrive à toucher de plus en plus facilement des mammifères montre qu'il s'en rapproche. Des vaccins potentiels sont déjà en cours de préparation.
Voilà, c'était le 26 avril, vidéo du Huffington Post pour discuter avec Philippe Sansonetti de ce monde sans frontières des microbes. Ça prolonge la discussion qu'on avait juste avant la pause au sujet donc des risques d'émergence de grippe avec H5N1. Et donc là, le passage aussi aux vaches et au lait, hein, on l'entendait dans cet extrait, mais aussi le fait que finalement on est plutôt prêt à fabriquer déjà un vaccin.
Oui, il est déjà là, en fait, avec les sérotypes actuels qui sont isolés, y compris avec ce sérotype aux États-Unis qui a l'air un peu moins méchant pour des raisons qui restent à définir lorsque les hommes sont contaminés. Mais on a vu en Espagne, par exemple, avec le virus classique, que les personnels d'élevage qui avaient été contaminés par les visons, par exemple, ont fait essentiellement des conjonctivites. C'est probablement le virus n'est pas arrivé suffisamment en quantité importante dans la cible pulmonaire pour créer la maladie. Mais enfin, encore une fois, j'utilisais le mot flirter, on sent bien qu'on n'est pas loin de quelque chose et qu'il faut faire très attention.
Ouais, justement, est-ce qu'on peut prédire la prochaine pandémie grippale, par exemple? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut modéliser aujourd'hui?
On peut faire de la statistique, on peut faire de la probabilistique. Enfin, il est clair que si on doit avoir une pandémie grippale, ce qui est relativement probable, mais on ne peut pas dire à 100%, la preuve, encore une fois, c'est SARS-CoV-2 qui est arrivé, c'est Covid et ce n'est pas la grippe aviaire. Si c'est la grippe aviaire, on peut penser qu'effectivement, ce sera H5N1, parce que c'est un sérotype qui a pris en main, si je puis dire, tous les volatiles sauvages de la planète. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est pas tellement est-ce que ça va vraiment arriver, parce que la boule de cristal, on l'a pas. C'est est-ce qu'on est prêt à ce que ça arrive? C'est ça la vraie question.
Et la vraie réponse, c'est quoi?
Et la vraie réponse, c'est pas dit qu'on soit tout à fait prêt, il faut qu'on réfléchisse aux conditions de survenue. En termes d'épidémiologie et de prévention. Et puis, il faut qu'on soit prêt en matière de vaccination. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le vaccin, les vaccins ARN messagers et éventuellement d'autres techniques rapides comme les vaccins recombinants, on peut très vite mettre sur le marché un vaccin qui soit efficace. On voit qu'il est efficace chez les canards. C'est pas des vaccins de cette nature, mais ça pourrait le devenir. Donc, les outils sont là. Certains vaccins sont même disponibles. Des stocks sont en train de se mettre en place. Et puis, si c'est un variant un petit peu particulier, ben on adaptera.
Camille, les messages.
Oui, Ilan nous écrit, revient sur les antibiotiques. Comment expliquer puis contrecarrer le comportement de nombreux médecins prescripteurs? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Philippe Sansonetti. On pourrait presque ouvrir aux vétérinaires, puisqu'on est en train de parler des animaux.
Oui, la surconsommation d'antibiotiques, disons en matière médicale, à la fois humaine et vétérinaire, c'est la même chose pour le vétérinaire que l'humain. Il y a une surconsommation. Alors, bon, voilà, il y a un problème, c'est l'éducation de nos médecins. C'est aussi le développement de plus en plus de tests, ce qu'on appelle des tests au chevet du malade, qui permettent de savoir si l'infection, par exemple une angine, est à streptocoque ou simplement une infection virale auquel on ne donne pas d'antibiotiques. Si cette cystite, elle est vraiment un micro-organisme bien identifié auquel on donne un antibiotique, sinon on n'en donne pas. Il y a toute une partie, encore une fois, c'est la science de la médecine qui va s'enrichir de ces tests qui vont permettre d'éviter ou de faire plus attention à la prescription. Néanmoins, encore une fois, il faut absolument que le monde médical s'y mette globalement. Il faut que les gens aussi mettent moins de pression sur leur médecin. C'est pas parce qu'un enfant continue à tousser un petit peu qu'il faut continuer à lui donner des antibiotiques. Il faut juste lui donner le temps de guérir et d'arrêter de tousser. À l'hôpital, ça se fait. Il y a bien sûr les comités de lutte contre les infections nosocomiales qui sont largement orientés vers la prescription d'antibiotiques. Voilà, c'est une action collective si on veut sauver les antibiotiques.
Alors, il y a un autre volet évidemment important et qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'aspect écologique aussi de ces traitements, parce qu'il y a une vraie pollution liée à la surproduction, surutilisation des antibiotiques, par exemple.
Oui, plus de la moitié de la résistance aux antibiotiques et plus de la moitié des antibiotiques, en fait, pour être plus précis, n'est pas liée à les prescriptions médicales ou vétérinaires. Elle est liée pour beaucoup à l'existence d'utilisation de mauvaises pratiques en élevage, en pisciculture, d'antibiotiques, à la fois pour des raisons de prévention. Prévention de quoi ? Et à la fois parce que des petites doses d'antibiotiques ont un effet trophique, c'est-à-dire que ça augmente la masse de viande animale ou de poisson. Alors, animal, c'est surtout chez le poulet et chez le porc.
Sauf que tout ça se retrouve dans les écosystèmes.
Tout ça se retrouve dans les écosystèmes, avec en plus les effluents des usines d'antibiotiques, en particulier dans certains pays que je ne mentionnerai pas, mais qui nécessitent vraiment de balayer devant leurs portes ou devant leurs fleuves en particulier, parce que les rejets des usines d'antibiotiques polluent. Et puis, bien entendu, nous-mêmes, il faut bien être conscient que quand on consomme des antibiotiques, en particulier oraux, la moitié de ces antibiotiques non dégradés partent dans les eaux usées et vont donc se retrouver dans les circuits de traitement des eaux usées et sur la planète. Un papier récent a montré que 65% des rivières et fleuves de la planète étaient contaminés par de petites doses d'antibiotiques, certes, mais suffisantes pour maintenir la pression sélective sur la résistance.
Vous parliez à l'instant des rejets, ça veut dire qu'il n'y a pas d'encadrement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de polluants éternels sur les antibiotiques.
Il faut faire rentrer ça dans la législation, mais il faut surtout réfléchir à des solutions.
C'est quoi les solutions ? Mais c'est pas le cas actuellement. Aujourd'hui, les usines qui fabriquent des antibiotiques peuvent rejeter autant qu'elles veulent.
Non, il y a eu une loi qui oblige, et bon, l'Inde qui était beaucoup visée, parce que dans certaines régions d'Inde, les effluents partaient directement dans le Gange ou dans d'autres fleuves, ont signé une promesse de faire attention. Mais là-dessus est arrivé le Covid, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé depuis, mais il y a une pollution effectivement par les antibiotiques. Et pour ce qui est de la présence d'antibiotiques par notre propre consommation dans les eaux usées, il faut qu'on réfléchisse à des approches. C'est pas un problème de législation, là, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Il y a de la santé publique aussi.
Si on veut faire de la loi, il faut avoir des solutions. Les solutions, ce serait de pouvoir dégrader les antibiotiques en amont de l'élimination des fécelles dans les eaux usées, avoir des méthodes parce que les antibiotiques ils passent à travers les filtres, c'est pas comme les microbes eux-mêmes. Donc il y a tout un sujet, c'est pas pour inquiéter, c'est pas pour condamner, parce que là, pour ce qui est de notre propre consommation et de le fait qu'on la retrouve dans la nature, c'est une réalité avec laquelle il faut réfléchir. Donc voilà, c'est un domaine très compliqué, mais globalement le résultat c'est qu'on a un peu fait des antibiotiques qui étaient des molécules miracles, des polluants environnementaux.
Voilà, sans souci évidemment
des écosystèmes microbiens qui en souffrent.
Le réchauffement climatique, c'est un facteur défavorable aussi pour la santé humaine, Philippe Sansonetti, si on résume les choses comme ça ?
Globalement, oui, c'est le réchauffement climatique et les changements climatiques eux-mêmes, les excès de pluviosité, tout ça, ça facilite en tout cas les maladies infectieuses pour ce qui nous concerne.
C'est-à-dire que les pathogènes vont augmenter aussi parallèlement à l'augmentation des températures ou pas?
On voit que les pathogènes, par exemple, les projections des experts disent que les infections entériques, par exemple, tout ce qui est diarrhée, en particulier de l'enfant, vont augmenter de 10% dans les 10 ans qui viennent. Parce que la chaleur, ça favorise la croissance des microbes, parce que l'excès de pluviosité, ça facilite les contaminations environnementales par ces microbes, et ainsi de suite. Et puis, il n'y a pas que les microbes eux-mêmes, il y a aussi les vecteurs des microbes,
l'effet
de la température, des changements thermiques les populations de vecteurs, sur les moustiques. Oui,
c'est
absolument.
Un vrai sujet pour la France, par exemple. Hein.
C'est un sujet pour la France qui a été envahie.
Pour le monde entier, parce que c'est évidemment...
C'est-à-dire, il y a des pays du monde qui sont affectés par la présence de ces vecteurs, de ces insectes qui transmettent des maladies infectieuses et qui sont habitués.
Première cause de mortalité, moustique chez les animaux.
C'est le premier tueur de la planète. Ouais. Premier tueur de la planète. En France, c'est vrai que c'est un peu triste parce que cette histoire d'Aedes albopictus qui a envahi quasiment toute la France du sud au nord, aurait-on pu l'éviter? Je sais pas, c'est compliqué, mais ça nous met en position de fragilité.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait imaginer qu'en France, on ait des épidémies de dingue, voire même de paludisme?
Épidémie, c'est...
En France métropolitaine.
Je veux dire, en France métropolitaine, ici. Le moustique étant là, et certaines personnes en étant porteuses au retour de zones d'endémie, on peut imaginer que demain, on ait des épidémies de dingue. Alors, les choses changent, le paludisme, ça se traite. Le paludisme, encore une fois, je reviens sur mon leitmotiv, il y aura bientôt un vaccin, la dingue. On va avoir des vaccins, y compris avec l'ARN messager, qui va faciliter considérablement la situation, même si c'est pas un vaccin très facile. Donc on peut pas dire qu'on va avoir des épidémies avec 20 000 décès comme il y avait à Marseille au début du XXe siècle, parce qu'on n'en parle plus de ce genre d'épidémie, mais... le risque est là, alors qu'il n'y était pas il y a encore très peu d'années.
Et on peut parler aussi de la baisse, de l'effondrement de la biodiversité, parce que là on parle de réchauffement climatique, mais sur la réduction de la biodiversité animale ou végétale d'ailleurs, on a aussi des incidences sur l'émergence de maladies infectieuses.
Oui, il y a des exemples typiques comme l'épidémie de Nipah à la fin des années 90, où au fond les changements à la fois d'habitude d'élevage et les modifications écologiques de déforestation pour faire pousser des arbres fruitiers pour donner à manger aux animaux, tout ça réduit la taille des écosystèmes, condense les écosystèmes et donc condense la présence d'animaux appartenant à ces différents écosystèmes. Et quand on rapproche les chauves-souris des porcs, on a une transmission et de la chauve-souris aux porcs de coronavirus ou d'autres virus, de paramyxovirus. Et ces virus, ils vont chez l'homme qui, dans les abattoirs de porcs, l'écarissage ou même le contact direct au moment de l'élevage. Donc les changements écologiques induit par l'homme, je suis toujours mal à l'aise à toujours comme ça stigmatiser l'homme, mais c'est quand même effectivement
une réalité quand même,
histoire d'anthropocène qui quel que soit le secteur où on la décline par rapport aux maladies infectieuses, on voit qu'il y a sinon une responsabilité systématique, au moins une participation humaine.
Humaines, oui, c'est très clair.
Elles sont responsables, oui. L'alimentation moderne est-elle en partie responsable de notre faible système immunitaire? Demande Palmira sur franceinter.fr.
C'est probable parce que les changements brutaux d'alimentation auxquels on a assisté, en particulier moins de fibres, beaucoup plus de lipides, beaucoup plus de protéines, beaucoup plus de sucre, changent complètement nos écosystèmes microbiens, en particulier ce qu'on appelle notre microbiote, diminuent sa diversité, augmente la présence de microbes un petit peu agressifs, qui sont pas vraiment des pathogènes, mais presque, qu'on appelle des pathobiontes, et tout ça commence avec des liens de causalité à vraiment établir scientifiquement, mais commence à nous faire penser qu'un certain nombre de maladies émergentes postmodernes, comme on les appelle, non transmissibles, seraient liées à ces changements d'habitude, en particulier alimentaires, mais pas uniquement.
Donc il faut aussi s'inquiéter de la perte de diversité microbienne.
Oui, alors ça,
pas seulement à l'échelle du corps, mais à l'échelle de tous les écosystèmes.
Oui, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que quand on entend le discours écologiste sur la perte de biodiversité, on n'entend jamais parler des microbes. Donc c'est important de parler de la diminution de la biodiversité et de son risque, mais on en a même parlé, mais les microbes aussi sont là, jouent un rôle tellement important dans la nature, à tous les niveaux, hein, dans les cycles de l'azote, du CO2, dans la dépollution de la terre, des océans, dans la symbiose avec les plantes pour les cultures, dans la symbiose avec les êtres humains, les animaux, qu'on peut pas négliger le fait que le monde microbien perd aussi de sa biodiversité, et c'est pas possible que ça n'ait pas des conséquences, et ça a des conséquences.
Et si on essaye de faire un exercice de pensée, est-ce que le monde pourrait un jour être privé de microbes ?
Ouais, c'est difficile à imaginer.
Vous posez la question.
Dans ces termes-là, ça peut être simplement un exercice.
Je reprends vos termes.
Oui, tout à fait. C'était plus un exercice de réflexion sur qu'est-ce que que serait le monde sans microbes. Effectivement, ce serait une catastrophe absolue.
Ce serait quoi les conséquences ? Est-ce que ce serait vivable, tout simplement ?
Non, tout ce que je viens de dire, il y aurait peut-être des îlots de survie, mais tout ce que je viens de dire serait multiplié par. Vous perdez les cycles, les grands cycles de production d'azote, vous perdez les cultures. Le seul avantage, c'est peut-être il y aurait plus de maladies infectieuses, en tout cas plus de maladies infectieuses bactériennes. Les virus, on voit pas très bien comment ils pourraient disparaître. Mais ce serait même plus grave parce qu'il y aurait plus les bactéries pour les antagoniser. Mais ce serait un monde cauchemardesque. Je pense pas qu'on en arrive là, mais j'essaye d'alerter sur la situation intermédiaire qui
est déjà pas très... Et l'importance de protéger cette diversité microbienne aussi. Merci beaucoup Philippe Sansonetti d'être venu dans la Terre au Carré. Ça s'appelle Microbes sans frontières. C'est une grande histoire justement de la microbiologie. Et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup.